Shalom Ouvracha, shalom à tous et à toutes. Voilà, on revient sur notre étude de Yom Yerushalayim après le bug interneti qu'il y a eu hier. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que ça marche? Là, je pense que vous pouvez répondre directement sur Internet. Donc voilà. Oui, non, non. On m'entend. Voilà. Est-ce que là, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend, Houston? Je pense que normalement, ça devrait marcher. Voilà, super. Alors, c'est parti. Donc, hier, on a commencé notre étude sur Yom Yerushalayim. Et on a... Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que je vous ai perdu. Mais je crois qu'on a bien mis en place les doubles façons de gérer, celle de Rabban Yochanan ben Zakkai et celle de Chizkiyahu Melech Yehuda. Donc, soit on est face à une génération de destruction, c'était le cas de Rabban Yochanan ben Zakkai, et dans ce cas-là, eh bien, il comprend qu'il faut sauver les meubles, ou alors, est-ce qu'on est dans une génération de construction, comme c'était le cas avec Chizkiyahu Melech Yehuda, et donc, eh bien, comme disait, j'ai cité hier Didier Guttel, eh bien, il faut se battre pour Jérusalem, quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, comment savoir dans quelle génération on est? Eh bien, c'est le défi. Et on avait évoqué ce qui a marqué dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, que lorsque tu as une question, tu dois aller voir un rabbin qui est en son temps, un rabbin qui connaît son époque, évidemment. Et donc, bah, la grande question, c'est quoi l'enjeu d'une génération de construction? Alors, je crois qu'on en était arrivé là. L'enjeu d'une génération de construction, eh bien, c'est là aussi ce qui est marqué dans la paracha de Shoftim, lorsqu'on nous dit « Tzedek, tzedek tirdof, lema'an tichye, veyarashta et haaretz ». On nous dit « Tu dois bien poursuivre deux fois tzedek, tzedek tirdof pour que tu vives et que tu hérites de la terre d'Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Rashi nous dit Alach achar beddin yafe. Kedai uminu yadayanim aksherim leachayot et Israël ou leoshivam ala dematam. En d'autres termes, nous dit Rashi, c'est quoi l'enjeu d'un beddin yafe, c'est-à-dire d'un beddin de construction? Eh bien, c'est lorsque de sa psikat alacha, de son commentaire de la alacha, eh bien, ces deux dimensions qui sont la survie du peuple juif d'un côté et le peuplement de la terre d'Israël, ne rentre pas en stira, ne rentre pas en contradiction. Dans une génération de destruction, de khurban, eh bien, il se peut qu'il y ait un bug entre les deux. Et donc, comme on a dit, il faut sauver les meubles. Par exemple, alors, je ne sais pas si vous étiez encore avec moi hier quand j'ai dit ça, mais par exemple, eh bien, à l'époque des croisades, non, ce n'est pas l'idée qu'un rabbin il dise maintenant, « Yala, tout le monde fait votre alia. » Non, là, il y a une véritable sakanat nefashot de faire son alia. C'est une génération de destruction, il faut sauver les meubles. Alors, il y a des gens qui sont happés par leur désir ardent de venir en Israël, et ils vont venir quand même, comme par exemple Rabbi Yehuda Halevi. Mais il va se faire massacrer par un croisé sur la plage lorsqu'il arrive en Israël. En d'autres termes, lorsqu'on est dans une génération de destruction, on a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, sauve les meubles. Mais sauver les meubles, c'est comment? Eh bien, c'est en mettant en place toutes les takanotes, tous les décrets de Rabban Yochanan ben Zakkai qui sont là pour nous rappeler Jérusalem. J'avais évoqué le cendre sur le front du Khatan, le kos qu'on brise et qu'on dit « Imeshkacher Yerushalayim », on ne parle pas du Betamigdash, on parle de Jérusalem d'Afka. Donc, eh bien, vous comprenez maintenant que Chizkiyahu et Rabban Yochanan ben Zakkai, bien qu'ayant agi de manière opposée l'un face à l'autre, eh bien, tous les deux, bah, en fait, ont réagi de la façon la meilleure possible, puisque les deux ont préservé l'identité d'Israël, l'un dans une boîte de Pandore et l'autre, eh bien, en se battant jusqu'au bout. En vérité, eh bien, il faut comprendre, et maintenant qu'on a dit cela, eh bien, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que Jérusalem a cette place toute particulière dans le peuple juif? C'est vrai que c'est assez irrationnel. Le lien qu'on entretient avec Jérusalem. Lama Zekar. Est-ce que c'est véritablement irrationnel ou est-ce qu'il y aurait quelque part quelque chose qui peut expliquer pourquoi le peuple juif voue à cet endroit ben, une relation si particulière. Vous savez, notre but dans le monde est de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Évidemment qu'on ne va pas être Dieu, mais on doit apprendre de lui, de ses midotes, et essayer de lui ressembler. Le seul problème, c'est que Dieu, il a quelque chose qui est fondamentalement pas nous. Il est infini. Il est infini, il n'a donc aucune mikbala, aucune barrière. Alors que nous, eh bien nous sommes des êtres humains finis qui avons des barrières, et particulièrement trois barrières. L'homme a trois barrières qui l'empêchent de s'élever au-delà de sa condition humaine. La première barrière, c'est la barrière de l'humain. Je suis moi et je ne suis pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je suis limité par mon identité. Il y a plein d'autres identités humaines, mais ce n'est pas moi. Bon, il y a des gens qui sont plusieurs dans leur tête, mais c'est a priori une maladie. Donc, je suis limité d'abord par la barrière humaine. J'ai une autre barrière qui est celle du temps. Quand je suis aujourd'hui, je ne suis plus hier et je ne suis pas encore demain. Donc, j'ai une autre barrière qui est une barrière temporelle. Et j'ai une autre barrière, la troisième, qui est une barrière spatiale. Lorsque je suis là, ben, je ne suis pas là-bas. Et aujourd'hui, avec tous les cours qu'on a fait sur YouTube, sur Zoom, machin, eh ben, on comprend bien que quand on est là, eh ben, on n'est pas là-bas. Et des fois, on ne peut pas être là-bas et puis c'est comme ça. Rabotai, pour pouvoir s'élever au-delà de notre condition humaine et donc nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, il faut faire tomber ces barrières. La barrière de l'humain, elle va tomber. Elle va tomber avec un homme une fois par an. Il s'appelle le Kohen Gadol à Yom HaKippurim. À Yom HaKippurim, le Kohen Gadol ou Mitvadeh Beshem Kol Ha'am. Tout d'un coup, il devient plus lui-même, il est tout le monde. Preuve que ne serait-ce qu'une personne, une fois par an, arrive à être tout le monde, eh bien, c'est que finalement, c'est faisable. Et que donc, ce n'est pas une barrière fondamentale, c'est une barrière parce qu'on n'est pas capable de s'élever à ce niveau-là. Mais nous dira le Rambam, dans Hilchot Rovel Umazik, qu'on peut s'élever au niveau du Kohen Gadol. Il y a des Talmidei Chachamim qui vivent le peuple juif. Il y a des Talmidei Chachamim encore plus grandes qui vivent l'humanité. Et il y a le Rav Kook qui vivait le cosmos. Donc vous voyez que quand on y arrive, eh bien on peut s'élever au-delà de la barrière de l'homme. Qu'est-ce qu'il en est de la barrière temporelle? Ah ben là aussi, la barrière temporelle, elle n'existe pas dans le judaïsme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une notion qui est fondamentalement juive qui s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? Eh bien, c'est une machine à voyager dans le temps. La Teshuvah, c'est la capacité que nous avons à retourner dans le passé et changer les événements et nous projeter dans l'avenir. La Teshuvah nous permet de ne pas être limité par la barrière du temps. Mais il reste quand même la troisième barrière, la barrière de l'espace. Que faire avec cette barrière spatiale, Rabotai? Eh bien, c'est là que Jérusalem entre en jeu. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Asara nisim na'asu bebet hamikdash. Vous le connaissez cette Mishnah, il y a eu 10 miracles au Bet HaMikdash, on parle du premier temple. Je ne vais pas passer en revue. On nous dit là-bas, omdim tsefufim u mishravim revachim. Vous savez, lorsqu'on arrivait au Bet HaMikdash pour les Shalosh Regalim, il y avait plein de monde. Et la Mishnah nous dit, omdim tsefufim. C'est-à-dire que quand on était debout dans la Hazara du Bet HaMikdash, on était collés les uns les autres. C'était vraiment pas très coronique. Aval mishtachavim revachim. Mais lorsque arrivait le moment de la ishtachavaya, on se prosternait en mode complètement avec bras et jambes tendus. Pas comme nos amis musulmans qui lèvent leur tuches vers le ciel. Non, non, nous, on s'allonge complètement. Et bien là, la Mishnah nous dit, tout d'un coup, il y avait de la place. De la même façon, la Mishnah termine en disant Veloolam lo amar Adam le chavero tsar li amakom she'alin birushalayim. Jamais on n'a entendu quelqu'un qui a dit j'ai pas de place pour dormir à Jérusalem. Il semblerait que Jérusalem n'a pas de limite de place. Il semblerait que Jérusalem n'a pas de limite de Makom. Eh bien, cette réalité-là atteint son paroxysme dans le Talmud, dans le traité de Megillah, lorsque là-bas, on nous dit, vous savez, dans le Kodesh à Kodashim, il y avait le Aaron Abrit. Il y a juste un problème, c'est que d'après la Torah, la dimension du Kodesh à Kodashim est de 20 amot. Sur 20 amot, c'est un cube. Le problème, c'est que le Aaron a une dimension de combien ? De 2,5 amot. Ok ? Seulement, nous dit la Mishnah, la Gemara sera dans ma Masechet Megillah dans la page 10, que « Va'amar Rabbi Levi, davar ze masoret beyadenu. » Davar ze masoret beyadenu, nous avons donc une tradition qui nous dit la chose suivante, que lorsqu'on comptait depuis la partie gauche, c'est-à-dire la paroi gauche du Aaron, jusqu'au mur gauche du Kodesh HaKodashim, il y avait 10 amot. Et lorsqu'on comptait depuis la partie droite du Aaron jusqu'au mur droit, il y avait là aussi 10 amot. 20 en tout. Mais où sont les 2,5 du Aaron? Il nous dit la Gemara, à Aaron Eino Minamida. Benes Ayaromed. C'est-à-dire que le Aaron abrite, dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas de place. Il a de la place, mais il n'a pas de place. Il est là, mais il n'est pas là. C'est cette dimension de non, si vous voulez, obligation de respecter les lois de l'espace qu'on peut trouver à Jérusalem. Ainsi donc, fort de l'enseignement du Kohen Gadol, fort de cet idéal de la Teshuvah que nous portons, et vivant à Jérusalem, ou rêvant de Jérusalem, ou espérant Jérusalem, eh bien on se rend compte, tout simplement, que les barrières qui m'empêchent de m'élever au-delà de ma condition, eh bien, sont tombées. Ce ne sont pas véritablement des barrières, ce ne sont que des paravents qu'on peut très bien passer. En d'autres termes, Jérusalem est le troisième pilier qui nous permettait, et qui nous permet toujours, eh bien, simplement de nous rapprocher véritablement de notre Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Tassim Oulev, c'est Jérusalem qui est au cœur de toute notre filote. Nous dit la Gemara dans Maseret Berachot à la page 30, vers où il faut se tourner pour faire la tefila? Eh bien, vous le savez, mais s'il y a des gens qui répondent trop vite, et particulièrement quand on habite en France ou en Amérique, on a l'habitude qu'il faut se tourner vers l'Est. Il faut se tourner à l'Est. Tu vois des gens comme ça qui sont en tioul. Ils disent, c'est l'heure de la tefila, c'est où l'Est? C'est tellement faux. Il ne faut pas se tourner vers l'Est. Je me souviens, il y a même un concept dans le monde haredi et chassidique. Il y a un concept qui s'appelle « Amizrech ». C'est la mode « Bamizrech ». Le chazan, il se tient « Bamizrech ». Mizrech, c'est quoi? L'Est. Mizrach. D'ailleurs, il y a même dans les boutiques de haredim, à Macharim, vous pouvez trouver ça. Eh bien, vous trouverez des très beaux tissus brodés comme ça, comme on peut trouver pour les chalotes de Shabbat et ainsi de suite, où il y a marqué « Mizrach ». Genre, les gens, ils mettent ça à la synagogue pour savoir où est le Mizrach. Je me souviens qu'il y a quelques années, avant que mon beau-frère et ma belle-sœur ne décident de, eh bien, pour des raisons qui, j'espère, sont piquoir nefesh, eh bien, ont décidé de déroger à Dvar Hashem et sont partis d'Aret Israël pour aller vivre à Manchester, Ira Kodesh, eh bien, je me souviens qu'avant cela, un Shabbat, on a été invités chez eux. Et donc, ils habitaient à Tel Tzion, Behemet, Ira Kodesh. Tel Tzion, c'est juste à côté de Kochav Yaakov, c'est au nord de Jérusalem. Et donc, on était là-bas Shabbat, machin, et ils m'ont pour la tfila de Mincha de Shabbat, le rabbin de la synagogue m'a dit « Tu veux faire chazan ?» Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et donc il m'a dit « Ta'alé la Mizrach !» Vous me connaissez, je suis toujours friand d'une provocation. Donc quand il m'a dit « Ta'alé la Mizrach !» Il pensait que j'allais devoir me rendre au Hamoud, à côté du Aaron HaKodesh, pour faire la tefila. « Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il me voit aller de l'autre côté de la synagogue, me tournant vers la fenêtre. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, tu m'as dit d'aller au Mizrach. Je vais au Mizrach. Alors il me dit, mais non, mais t'es allé à la Mizrach. Et il me montre l'endroit du Chazan. Et je lui dis, mais tu sais, mon ami, c'est pas parce que tu es Chabad, en l'occurrence, c'était une synagogue Chabad, c'est pas parce que tu es Chabad et que donc pour toi, le centre de la vie, c'est Brooklyn, qu'il faut absolument penser qu'on est à Brooklyn. Certes, quand on était à Brooklyn, il fallait se tourner vers l'est. Mais là, tu habites à Tel Tzion, au nord de Jérusalem. Donc, il faut se tourner vers le sud. Et effectivement, ta synagogue, elle est bien placée. La Hamoud, il est tourné vers le sud. Alors, pourquoi tu me dis, va au Mizrach? Il me dit, oh, arrête, ta tzioni midai. Il était trop sioniste. Il dit, mais quel rapport? Et effectivement, la Gemara nous dit, Aya omed bechutz la'aretz. Quelqu'un qui se tient en chutz la'aretz. Yechaven et libo keneged Eretz Israël. Certains en chutz la'aretz, tu dois tourner vers Eretz Israël. Azov, tu ne peux pas encore atteindre la dimension Jérusalem. Il faut d'abord que tu t'intègres à la dimension de la nation. Et là encore, bah, tu tourneras vers l'est si tu es enfin, si en France, tu tourneras vers l'ouest si jamais tu te balades, je ne sais pas moi, si tu es en ce moment au Japon, bah, tu te tourneras vers l'ouest. Si tu es en Afrique, tu te tourneras vers le nord. Si tu es en Sibérie orientale, bah, tu te tourneras vers le sud. Aya omed be'eretz Israël, yechaven et libo keneged Yerushalayim. Voilà, maintenant que tu t'es adapté et que tu es bah, faisant partie de l'identité nationale, on se tourne vers Jérusalem. Et après, toute la Gemara va continuer avec d'autres, encore plus Jérusalem, vers le Beth Amikdash, Arba et Beth Amikdash, Parochet, et ainsi de suite. Il faut se tourner vers Jérusalem. Car lorsqu'on se tourne vers Jérusalem, eh bien, on comprend que c'est de là que provient notre source de vie. Mazéfer la tfila, c'est l'ifnot et la kadosh baruchu. Eh bien, il faut que tu comprennes que toute la parole de Dieu provient de Jérusalem. En fait, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Halevi, dans son Sefer HaKuzari, au Mahamar Dalet, ou à Piska Yud Aleph, Rabbi Yehuda Halevi vient de dire quelle est la véritable raison pour laquelle on s'oppose au christianisme. Très bien, salut de Liverpool envers le sud-est. Bah ouais, c'est ça. Toi, c'est sud-est. Nahon. Tu as totalement raison. Et chez Bezrat Hashem, les Shana Abba, Birushalayim, vélo de Liverpool. Mais je me dis que tu étais à Liverpool juste pour le business et que tu devais rentrer, mais que tu n'as pas pu à cause du corona. Je ne vois pas d'autre raison pour laquelle tu serais à Liverpool. Donc Bezrat Hashem, l'an prochain, à Jérusalem. Et qu'on puisse ensemble danser dans les Rikoudim avec les drapeaux et qu'on n'en parle plus de cette histoire de corona. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yehuda Halevi nous dit dans le Kuzari, eh bien très bien, encore mieux Ariel, si tu es rabbin de la communauté de Liverpool, je te souhaite encore plus l'an prochain à Jérusalem avec toute ta communauté. Bah, le rabbin, il est censé montrer le chemin. Moshe, il a pris toute sa communauté et il est sorti d'Égypte. Alors je te souhaite que vous ayez les forces Kalkaliot au niveau économique machin, que toi et toute ta communauté vous puissiez venir et que tu recrées ta communauté ici. Nous, tu feras une synagogue Bet Knesset de Yotze Liverpool. Je viens, je te promets, je viens. Mais Kitsour, à ce moment-là, Rabbi Yehuda Halevi nous dit pourquoi, quelle est la véritable raison pour laquelle on n'accepte pas ni le judaïsme. Quel lapsus, ni le christianisme, ni l'islam. Alors, dans le Mahamar Rishon, il avait donné des couchiotes philosophioques, c'est-à-dire des couchiotes philosophiques théoriques. Pourquoi est-ce qu'il y a un bug dans le christianisme et un bug dans l'islam? Mais dans le Mahamar Revi'i, il nous donne sa vraie raison. Il nous dit ici, Rabbi Yehuda Halevi, je cite, « Omina kol echad mishne akitot amar ki siga orot ha'elohim hem b'motza'am retzoni lomar admat ha'kodesh » שמשם עלו אל השמיים וצובה לישר אנשי העולם כולו. והיה מקום כוונתם ארץ ההיא. ולא נתקע העניין עם מעט עד שהשיבו כוונתם אל מקום אשר המונם שם. הלא זה כמי שירצה לישר בני אדם כולו אל מקור השמש, כי עיניהם תרוטות, ולא יכלו לראות ולא מצאו מקומם, ונשא אותם אל כותב הצפון או אל כותב הדרום, ואמר להם, השמש אינה, הקבילוה, תראו אותה ולא ראו אותה. רבותיי, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, le christianisme et l'islam, à l'origine, ils se tournaient vers Jérusalem. Les premiers chrétiens se tournaient vers Jérusalem, c'était des juifs. Et les, au départ de l'islam, quand tu regardes le Coran, au début, Mahomet, il se tourne vers Jérusalem pour faire sa prière. Ce n'est que après avoir été jeté par les juifs de Médine, et ce n'est que après que Paul décide de changer complètement le christianisme avec comme centralité Rome, eh bien qu'on va se décider de changer le kivoun atfila. Pour les musulmans, on se tournera vers la Mecque. Et donc, Bimkhila, mais on tournera notre postérieur vers Jérusalem, ce qui en dit beaucoup, puisque quand tu es à Médine, bah, tu tournes vers la Mecque, Jérusalem, tu lui montes ton derrière. Et pour ce qui est de nos amis chrétiens, lorsque Paul va faire tout simplement adopter le christianisme, va lancer le christianisme dans l'Empire romain, il a annulé toutes les mitzvot et il va également surfer sur la vague païenne de l'Empire romain. Et donc, toutes les églises sont tournées vers l'Est parce que tous les temples d'idolâtrie étaient tournés vers l'Est à cause du dieu soleil. Le fait qu'on ne sache pas vers où prier montre que notre rapport à Dieu est mauvais. Baruch Hashem, que nous savons que nous tournons vers Jérusalem. Donc on comprend maintenant, Jérusalem a cette capacité d'abord de nous enlever les barrières qui font qu'on peut véritablement se lier à Dieu. Et comment on va faire ? Eh bien, on sait très bien que c'est de là que sort toute la vitalité. Et donc je me tourne vers Jérusalem pour puiser cette vitalité. Il est fait. Mais cette vitalité n'est pas seulement une vitalité spirituelle. Jérusalem n'est pas seulement un raïon, un idéal métaphysique. Ça l'est également. Mais Jérusalem, c'est également concret. C'est également concret. C'est les pierres de Jérusalem. C'est Katamon, Kiryat Moshe, Arnona, c'est Jérusalem. C'est la Rakevet Akala, c'est le Mashbir, c'est les bouchons, c'est le Kotel. C'est toutes ces pierres, Jérusalem. Eh bien, donc, toutes ces pierres, il a bien fallu en prendre possession. Nous dit le verset de la Torah, « Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz ». Vous connaissez ce verset ? Eh bien, que nous dit le premier rachid de la Torah ?« Amar Rabbi Yitzhak ». Premier rachid de la Torah. « Lo haya tzarich la'atchil et ha-torah elam mishachodesh hazeh lachem, shei mitzvah rishona, shei nitztavu Yisrael. » On matam patar be-bereshit. On sait tous. Le premier rachid de la Torah nous dit pourquoi la Torah a commencé par Bereshit, elle aurait dû commencer par Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, c'est-à-dire la première mitzvah. Pourquoi on a commencé Dafka par Bereshit? Eh bien, tout simplement parce que nous dit Akadosh Baruch Hu, enfin, Beshem Rashi, nous dit Rashi, Umatam Patar Bereshit, Mishum, le verset de Tehilim, Koach Ma'asav Igid Le'amo, la tête la haine Nachalat Goyim. Koach Ma'asav, c'est la force physique de ses actions qu'il a donné à ses enfants. De quoi ? De leur donner la terre des sept peuplades cananéennes. Que si un jour, les goïms viennent nous dire, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des palestiniens, des cananéens, eh bien nous saurons quoi leur répondre. Toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Et il nous l'a donné, il leur a donné d'abord, mais après il leur a repris, il nous l'a donné. Et comment ? Im Koach. Qui koach ma'asav yigid le'amo. C'est vadaï. Koach ma'asav. Koach, c'est 28. Ah, on va voir, on va voir, on va voir. Il va falloir conquérir Jérusalem. Mais pour conquérir Jérusalem, eh bien, il faut une dimension que malheureusement, très souvent, cette dimension nous a fait défaut. Pour pouvoir conquérir Jérusalem, eh bien, il faut être ensemble. Il faut une unité qui est la condition sine qua non de Jérusalem. S'il n'y a pas d'unité dans le peuple juif, il n'y a pas de Jérusalem. Vous connaissez ce verset de Tehilim, Omdot ayu raglenu bisharaych Yerushalayim, Yerushalayim abenuya Keir Shechuberala Yachdav. Barour, que nous comprenons ce verset tellement profondément après la guerre des six jours, puisque c'est une névoie qui s'est réalisée. Mais nous comprenons également que c'est la dimension de Jérusalem, Yachdav, ensemble. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on regarde, le livre de Shmuel, on voit que pour conquérir Jérusalem, David a eu besoin d'abord de réunir les 12 tribus sous son magen David. Et une fois qu'il a conquis Jérusalem, chose que Yehoshua et personne d'autre n'avait réussi à conquérir pendant 350 ans, David, ayant réuni les tribus, conquis Jérusalem et décide non pas de conquérir, mais d'acheter le mont du Temple. Seulement, dans le livre de Shmuel, on voit qu'il achète le mont du Temple, mais on voit qu'il l'achète pour 50 shekels. 50 shekels et non pas ce qui aura marqué dans Divrei Hayamim. Car dans le livre de Divrei Hayamim, on revient sur la même transaction, sauf que là-bas, dans Divrei Hayamim, on va nous dire tout simplement, Divrei Hayamim Aleph, chapitre 21, verset café, on nous dit, Vaiten David la Ravna, bimkom shikle zahav, mishkal sheshmot. Là-bas, dans Shmuel, on a dit qu'il a payé 50 shiklés, 50 shkalim, et là, on nous dit qu'il a payé 600. Il y a eu une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim. Non, nous dit le Talmud Yerushalmi Bechagiga, que tout simplement David a donné 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda et que chaque tribu a donné 50 shekels, ce qui nous amène à 600. En d'autres termes, qui a acheté Arbaït? Am Israël. Cette dimension d'unité est la dimension sine qua non pour pouvoir arriver à Jérusalem. Je l'ai déjà dit, mais vous le savez, en 1948, trois fois, on a essayé de conquérir la vieille ville. Choum d'Avar. Puisqu'on était plus occupés à se détester entre nous, entre la Haganah, le Lehi, on va pas se mettre ensemble. Et chaque opération va être menée séparément par chacun des groupes armés. Et des courses, on va perdre. À la veille de la guerre des six jours, non seulement il n'y a plus trois armées, il y a Tsahal, mais en plus, pour la seule fois de l'histoire, il y aura un gouvernement d'union nationale. Tout le monde est ensemble. Ils ne savent pas que ça va être pour Jérusalem, mais c'est pour Jérusalem. Rabotai, aujourd'hui, nous vivons ces moments d'unité. Nous vivons la réalisation de la promesse des prophètes. Et je voudrais qu'on en prenne bien conscience. Zecharia, Navi, le prophète Zacharie, dans le chapitre 14, va nous donner une névoie. Et c'est important de savoir qu'il y a des névoies qui vont se réaliser et d'autres qui se sont réalisées. Nous dit Zecharia, « Ve'asavti et kol ha-goyim el Yerushalayim ha-milchama » Il y aura un temps où il y aura une guerre sur Jérusalem. « Ve'nilkeda ha-ir » Et la ville sera pris en siège. « Ve'nashasu ha-batim »« Ve'nashim tishachavna » Et les maisons seront détruites, les femmes seront clouées au sol. Ve'yatsa chatsi ha-ir bagola, et la moitié de la ville partira en exil. Ve'yeter ha-am lo ikaret min ha-ir. Et le reste du peuple ne sera pas déraciné de la ville. Nous, Rabotai, cette névoie-là s'est réalisée en 1948. C'est mot pour mot ce qui s'est passé en 1948. La ville a été bombardée, la ville a été rendue en siège, la ville a été coupée en deux. Venez la suite. La suite de la névoie. Pasuk Gimel. Vayatsa, vayetse Hashem, venilcham bayom ahu, keyom ilachamo bayom krav. Et Dieu, à un moment donné, va se battre dans cette guerre. Quand? 19 ans plus tard. Vamdou raglav behar zeitim. Vamdou raglav behar zeitim, asher al pene Yerushalayim mikedem. Rabotai, cette deuxième partie de la névoie s'est réalisée, non pas en 48, mais en 67. Raglav shel akadosh baruch hu, nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, c'est Am Israël par lequel il se dévoile. Chayale tzal, les parachutistes du Gdoud 66 de la division 55 qui sont descendus par le mont des Oliviers, pas que le groupe 66 d'ailleurs, qui sont descendus par le mont des Oliviers et qui sont rentrés à Jérusalem. Il y a une troisième partie à la névoie qui ne s'est pas encore réalisée, qui sait, peut-être aujourd'hui, demain, c'est que Har HaZeitim va s'ouvrir en deux. Pas encore, mais l'Arteda, on ne sait jamais, La prochaine fois que tu te balades sur le mont des Oliviers et que tu vois que ça tremble, fais gaffe. C'est peut-être la réalisation de la troisième prophétie. Rabotai, nous vivons des événements prophétiques. Et c'est fondamental de le comprendre. C'est fondamental de le comprendre parce que un pays d'Israël qui aurait pour capitale Jérusalem, ce n'est pas un pays d'Israël qui aurait pour capitale Tel Aviv. Tel Aviv, c'est génial. Mais Tel Aviv, c'est une ville qui a 100 ans, un peu plus. C'est-à-dire que c'est une ville qui, créée en 1909, est une ville nouvelle. La mettre comme capitale d'Israël montrerait que Israël, l'État d'Israël, est un nouveau pays dans le Moyen-Orient, un pays démocratique, occidental, dans le Moyen-Orient. Comprendre que Jérusalem, avec la vieille ville, est la capitale d'Israël, c'est comprendre que nous sommes les successeurs du roi David, tout simplement. Rabotai, Yom Kafret Beyar, Yom HaKoach, c'est le jour où Kadosh Baruch Hu a décidé que l'histoire allait changer, allait passer à un autre tournant. C'est le jour où nous sommes revenus à Jérusalem. C'est le jour où nous avons dit Har Abayit Beyadenu. Mais c'est le jour qui, déjà depuis le début de la création du monde, était propice à cette résurrection de la souveraineté juive. Vous savez, quelques 80 ans avant Yom Yerushalayim, il y a une famille qui va fêter le 28 Iyar tous les ans comme jour de fête. Cette famille, c'est la famille du Rav Kook, car le 28 Iyar est son jour d'Aliyah. Mais le Rav Kook n'a pas choisi le 28 Iyar par hasard comme Aliyah, car il écrit dans ses Yigrot qu'il y a déjà des centaines d'années qu'il y a un minhag de Yom Simcha Bekafret Beiyar. Pourquoi ? Parce que c'est la Hiloula du prophète Samuel de Shmuel Hanavi, qui n'était autre que le rabbin de la Malchoute. Pourquoi Shmuel Hanavi a quitté ce monde Kafret Beiyar ? Eh bien parce que, étant le prophète qui a couronné les rois, il était normal qu'il parte le jour où, pour la première fois de son histoire, un Israël s'est comporté comme une Malchoute. Et c'est quand la première fois qu'on s'est comporté comme une malchoute ? Lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on a fait la guerre contre Amalek. C'est la première fois qu'on se battait comme une entité souveraine. Et la guerre contre Amalek, Rabotai, d'après les versets de la Torah, c'est le 28 Iyar. Et quand on regarde Bichlal, qu'est-ce que c'est le 28 Iyar dans la création du monde ? Eh bien aujourd'hui, on le sait grâce à la Sfirat HaOmer, que le 28 Iyar, 43e jour du Omer, c'est également à Chesed Sheba Malchut. C'est-à-dire le début de la dernière semaine, le premier jour de la dernière semaine, le premier jour de la semaine de Malchut. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. Le 28 Iyar, depuis la création du monde, était propice au retour de la royauté juive. Ah bon, ça c'est bien pour le 28 Iyar. Mais qu'est-ce qu'il en est de 1967, Rabotai ? On a appelé ce cours Yom HaYerushalayim ou Yom HaShabbat ? C'est autodavar. Vous savez, quand c'est Shabbat, là on est vendredi, Shabbat rentre à une heure déterminée. Alors on fait rentrer Shabbat un peu avant parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Ah, ben Hashmashot. Mais je peux faire rentrer Shabbat encore plus en avant, Plaga Mincha. Alors je ne peux pas faire rentrer Shabbat vendredi matin à 10h du mat. J'ai une limite de Tosefet Shabbat. Nous dira le Gaon de Vilna dans son commentaire du Sifra d'Itzniuta, qui sera repris dans Kolator d'ailleurs. Que de la même façon que tu peux faire rentrer Shabbat chaque semaine un peu avant, eh bien le Shabbat de l'histoire peut rentrer un peu avant. Shabbat de l'histoire, ça commence à l'an 6000. On est en 5780, c'est pas longtemps. Mais nous dit le Gaon de Vilna qu'on peut faire rentrer Shabbat un peu avant au niveau de l'histoire. C'est quand ce un peu avant que Minyan Erev Shabbat. C'est-à-dire 272 ans, valeur numérique du mot Erev, avant l'an 6000, c'est rare, alors, eh bien, nous faisons rentrer la Kdusha du Shabbat du monde. Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. 272 ans avant l'an 6000, bah, c'est quoi ? Eh bien, c'est traduit en date loazite, c'est le lendemain de la guerre des six jours. C'est juste après 1967. En d'autres termes, la guerre des six jours, notre retour à Jérusalem, c'est le début de Kdushat HaShabbat Shel HaOlam. Et c'est la raison pour laquelle, et je terminerai par là, que, vous savez, il y a un texte dans la Gemara, dans le traité de Ta'anit, qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a prêté un serment. Il a dit qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas. Il a fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? La Jérusalem d'en bas, on la connaît, c'est Jérusalem, c'est le Mashbir, c'est Rekev Takala, c'est les magasins, c'est ce que tu veux. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut? Eh bien, cette Jérusalem d'en haut n'est autre, d'après le Rav Meir Yehuda Getz, qui était le Rosh Yeshivat Amekoubalim et le Rav du Kotel, un bon Tunisien. Le Rav Getz nous dit, Yerushalayim Shel Mala, c'est un sac avec des neshamot. Des neshamot extraordinaires qui sont les neshamot de la prophétie. Nous dit le Rav Getz, depuis la destruction du temple, du premier temple, et la fin de la névoa, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fermé le sac. Il ne donne plus ses neshamot extraordinaires. Mais dès qu'Israël retournera dans la Jérusalem d'en bas, alors il recommencera à ouvrir le sac de la Jérusalem d'en haut. Rabotai, tous ceux qui sont nés après 1967 sont les bénis Israël qui vont recevoir une neshama extraordinaire, qui sont les neshamot de la névoa, propices à un retour de la névoa dans cette Jérusalem retrouvée. Si aujourd'hui on a dû le fêter chacun derrière son ordinateur, eh bien, on n'a plus qu'à souhaiter que l'année prochaine, on se retrouve tous dans les rues de Jérusalem, drapeau au vent, pour que nous puissions ensemble l'ismoir, et que, pas que nous, mais que le monde entier en prenne conscience, pour que les nations nous regardent fêter Jérusalem et se disent « Ki mitzion tetzé Torah, udvar Hashem Yerushalayim, chag sameach, ve shabbat shalom ».